Docteur, à l'instant, on écoutait les télépagailles qui viennent d'être interviewés par Yann. Vous êtes toujours en direct de l'émission Dig Dig Diggers pour ce plateau des bars en trance. On émet depuis le Blind Spot, ce disquaire basé à Lille. Et puis on va retourner du côté de nos chers collègues sur le parvis de la cité pour retrouver Romain de BFM qui va réaliser sa petite interview de Théa.
Donc ouais, on est avec Théa devant la salle de la cité, donc salut Théa.
Hello, enchanté.
On est ravis de t'avoir avec nous à l'occasion des bars en trance. Donc pour commencer, question un peu bateau, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire comment tu te définirais en tant qu'artiste? Et pareil pour les auditeuristes qui n'auraient pas eu le temps d'écouter ou qui ne connaîtraient pas ce que tu fais, bah nous présenter un peu ta musique.
Voilà, je m'appelle Théa, j'adore la pop et le punk des années 2000, j'adore crier, j'aime pas beaucoup la police, quoi, un truc comme ça.
D'accord, et donc quand je regardais un peu comment on te présentait, on te présente comme artiste queer, emo, mélo, drama queen, et moi je me disais ça valait peut-être le coup de réexpliquer toi le terme queer, comment tu l'envisages?
Queer par identité d'abord parce que voilà je le suis et ce terme là plus que d'autres parce que pour moi il renvoie à une en fait c'est une insulte à la base queer qu'on lance aux personnes LGBT et qui a été récupérée voilà ça veut dire bizarre, ça veut dire pas comme les autres et je trouve que ce terme il a non seulement une consonance d'identité auquel on peut se rattacher mais aussi une consonance culturelle, quoi. Voilà, de tout ce qui est né en fait de cette culture LGBT, du drag, des personnes trans, des personnes gays, des personnes lesbiennes, tout ce qui vient en fait une fois qu'on récupère ce terme. Donc voilà, j'emploie ce terme pour ça, pour évoquer cette culture-là, quoi.
Ok, et donc tu disais punk des années 2000, du coup, moi, ce que tu fais, ça me fait un peu penser à un mélange un peu dans les artistes. Comme Machine Gun Kelly, la vague de tous les artistes produits par Travis Barker qui reprennent un peu des codes du pop-punk, ils mettent de l'autotune ou des...
Ouais,
ils reprennent des codes du rap et l'associent avec des codes un peu émo. Toi, du coup, les groupes, les artistes qui t'ont marqué, qui t'ont donné envie de faire de la musique et ceux qui t'inspirent encore maintenant, ce serait qui?
Bon, les premiers albums que j'ai écoutés, qui étaient à moi, qu'on me passait, que j'écoutais un peu en scred, c'était quand j'étais enfant, Sum 41, The Good Charlotte, Linkin Park, Kyo aussi. Après, il y a l'héritage de mes parents, plus de type Bashung, TFN, etc. Mais les trucs que je considérais être un peu à moi, un peu interdits, voilà, c'était cette pop-punk-là de ces années-là. Donc effectivement, après, maintenant, il y a d'autres projets qui font référence un peu à ce punk-là, à cette pop-là. Mais voilà, moi, c'est un truc dans lequel j'ai grandi et qui était un peu, tu vois, cringe, quoi, entre guillemets, pendant quelques années, quoi. Et en fait, moi, je trouve que c'est très fun, que c'est très pop et il fait rappel en y mettant un peu du fond politique. Il n'y a pas plus fun, quoi.
D'accord. Et du coup, justement, tu dis pop, punk, mais il y a quand même aussi des éléments électro, même pour moi, rap. Tu vas piocher un peu partout.
Ouais, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup plus inspirant que le rap en termes d'écriture en français. Aussi parce que c'est des musiques qui envoient, donc il faut que dans le texte, tu vois, ça envoie aussi. Et après, forcément, il y a une notion un peu digitale parce que moi je commençais par la batterie, mais je considérerais que mon instrument principal, tu vois, c'est mon ordinateur. Je compose sur logiciel, je fais toutes mes prods moi-même et c'est un élément qui est très important dans le projet. C'est cette notion un peu digitale, le rapport entre moi et mon ordi, et entre ce qui va être punk, transpirant et vivant, et ce qui est locked dans un logiciel.
Ok, et donc pour ce qui est de tes textes, quand moi j'écoute tes chansons, j'ai un peu l'impression de replonger dans mon adolescence. Genre, j'ai l'impression que tu nous dis que bah, ce monde il est un peu tout pourri, que t'as envie de tout cramer, mais qu'en même temps, ce que tu dis, c'est pas complètement nihiliste, vu que tu y es quand même question beaucoup d'amour, de faire la fête, voilà, de trucs un peu plus joyeux et positifs. Donc toi, quand tu fais de la musique, que t'écris des paroles, c'est quoi ce que tu veux partager?
En fait, j'essaye de partager quelque chose qui est réel et qui, dans mon cas, c'est l'idée de qu'est-ce que c'est que de grandir, en tout cas d'avoir 20 ans, tu vois, en 2024, quoi. Et aussi d'avoir 20 ans en étant queer, tu vois, en étant trans. Et c'est un peu partager ces questionnements-là, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions dans mon texte. Et voilà, c'est juste partager qu'est-ce que moi je ressens et qu'est-ce que ça peut être d'avoir 20 ans. Je pense que ça n'a jamais été facile d'avoir 20 ans, tu vois, mais qu'aujourd'hui on est quand même face à des urgences et des questionnements qui sont peut-être plus intenses que jamais, et que du coup voilà, ça implique beaucoup de conflits personnels et sociaux aussi, tu vois.
Ouais. Et ces derniers temps, t'as enchaîné pas mal de dates.
Ouais.
Mais il me semble que t'as commencé les concerts il y a quelque chose comme 3 ans dans les squats.
Ouais, pardon, vas-y, continue.
Pas de soucis. Et du coup, je voulais savoir si tu pourrais nous raconter un peu comment t'es passé à composer de la musique dans ta chambre, c'est ce que j'avais cru comprendre en interview, bah, faire ces concerts-là et arriver à maintenant jouer dans des belles salles. Comment ça s'est passé du coup? Est-ce que t'as bénéficié d'accompagnement, bossé avec des structures pour t'aider à diffuser, faire connaître ta musique, à trouver des dates, ou c'est juste un enchaînement un peu naturel de rencontres, d'opportunités qui se sont présentées à toi?
Alors moi j'ai toujours fait de la musique, passé de la musique, etc. Je crois que le projet il est devenu vraiment réel, il s'est dessiné au moment où on s'est dit on était en sortie de confinement effectivement en 2021, et on s'est dit en fait on a envie de faire des concerts, et on a envie de pas demander la permission ni au gouvernement à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas trop le droit de faire des rassemblements encore, mais ni à qui que ce soit qui nous ouvrirait la porte d'une salle et tout. On s'est dit il y a effectivement un squat à Montreuil qui nous a ouvert la porte, et on a monté tout un show nous-mêmes, ce qui nous a confronté aussi à ce que ça voulait dire de monter un show de A à Z. Et on a commencé certes dans ce squat-là, mais aussi dans des salles, tu vois, à Paris, toujours en soutien avec des assos, dans des soirées communautaires, etc. Ce qui fait qu'en fait on a juste commencé à faire des concerts et commencé à se confronter à du public, et après les accompagnements, les Inouïs du Printemps de Bourges, l'accompagnement qu'on a eu du RACAM, etc., c'est des choses qui ont découlé parce que c'était déjà ce qu'on faisait, et que du coup effectivement il y a des portes qui se sont ouvertes pour nous, et une tournée là qui vient de commencer, donc c'est génial, mais voilà, je sais aussi que je repasserai en squat, il y a des belles salles aussi, et puis surtout des belles causes à soutenir, voilà.
Et tu dis « on » du coup, t'es pas toute seule dans le projet impliqué
C'est ça, je suis toute seule face à mon ordi à composer, à faire les prods, etc. Mais quand il s'agit de la scène, on est pour l'instant deux sur scène avec mon Adlib qui fait de la guitare et d'autres instruments. Moi je voulais pas être seule sur scène, je voulais ramener cette énergie rock que je kiffais dans les concerts. C'est aussi avec lui qu'on a imaginé, tu vois, les premiers concerts, les premières scénos, les premières lumières. Et aussi dans la team, il y a Elliot aux lumières et Guillaume au son, qui est une team en fait qui s'est formée avant qu'il y ait un partenaire live. En fait, on a juste commencé à faire des concerts tous les quatre, à monter des shows, et maintenant on continue sur la route. Voilà, donc c'est pour ça que je dis « on », c'est ma team d'amour. Voilà.
Et là, du coup, ce soir, donc, tu joues au bar en transe, à la salle de la Cité. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des belles... chose qui arrivait niveau concert justement, et pareil, est-ce que niveau musique on peut s'attendre à des sorties de nouvelles choses pour les semaines ou mois qui arrivent?
Ouais, effectivement, Nicolas, on est sur la tournée, on vient de sold out la Cigale qui arrive en avril, ce qui est absolument absurde mais génial, et on a sorti il y a quelques semaines, je crois, Caval Caval, un nouveau titre, et on sort bientôt d'autres titres. Je sais pas ce que j'ai le droit de dire trop par rapport à ça, mais évidemment à la Cigale on chantera des nouveaux morceaux, voilà.
Ah, cool. Et justement, quand tu parlais de tes textes, les choses que tu avais envie de partager, tu dis ce que ça fait d'être queer quand on a 20 ans. Nous, dans les radios de la Ferrarock, on a beaucoup réfléchi aux questions d'inclusion. C'est, voilà, ça a suscité des débats, et notamment ce qui concerne tout ce qui est la place des femmes dans la musique. Mais toi, justement, en tant que personne queer, est-ce qu'il y a des moments, toi, où tu as été confronté à des gens pas cool ou des barrières liées au fait que... à ton identité?
Ouais, évidemment. En fait, dans le monde de la musique comme n'importe où, les micro-agressions, quand t'es une meuf, quand t'es queer, quand t'es trans, même quand t'es une personne noire et tout, bah en fait c'est partout, tu vois. Et ensuite, des vraies grosses difficultés où on m'a fermé des portes, moi j'ai eu la chance de pas trop en avoir, parce qu'en fait on a fait les trucs avant de demander à les faire, tu vois. Mais évidemment, il y a des réflexions à avoir dans le monde de la musique, mais je pense dans tous les mondes, pour savoir comment on est actif dans repérer certains schémas et certaines choses qui des fois sont de l'ordre de la microagression, des fois sont de l'ordre de complètement l'agression, mais ou même c'est juste l'accumulation de ça qui crée un environnement qui devient hostile pour certaines personnes, quoi.
Ok, et du coup ton public, il est plutôt convaincu et conscient de ces problèmes-là, ou c'est plutôt un public qui vient pour la musique et avant tout, quoi, sans trop se soucier de ces questions-là, justement?
Et bah, évidemment, je pense que ça rassemble des gens qui se reconnaissent dans mes textes. Après, évidemment, ça prend plein de formes différentes, et aussi, on se fait surprendre à voir en concert des profils qu'on n'attendait pas forcément, genre des personnes, tu vois, de 50 ans qui viennent parce que, en fait, ça leur rappelle ce qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes ou un peu plus tard, etc. Et que, en fait, comme il y a un côté nostalgie, aller chercher des codes d'autres musiques, une énergie, un peu de rébellion aussi, je pense que ça parle à vraiment tout type de gens, et qu'il n'y a pas spécialement, tu vois, besoin d'être queer ou d'être machin pour se reconnaître dans les paroles. Je pense qu'il y a juste besoin de savoir ce que ça fait d'avoir 20 ans à un moment dans sa vie et de vouloir juste dire « vas-y, on va pas laisser passer certaines choses, quoi ».
Ça roule. Et du coup, dernière question pour conclure l'interview. Là, tu vas jouer à la salle de la Cité à 21h55.
Tout à fait.
Donc, je me demandais, en tant qu'artiste émergente, quand on aborde un concert en festival, par rapport à un concert en tête d'affiche, entre guillemets, classique, est-ce que toi, tu t'abordes les choses différemment? Et puis, c'est quoi un peu, toi, le plan pour aujourd'hui? Est-ce que tu vas aller voir des concerts? Est-ce qu'il y a d'autres artistes que tu as envie d'aller voir?
Là où j'ai un peu le seum, c'est que juste avant nous, il y a Parsec, et du coup, nous, on sera en préparation, mais Parsec, c'est des potes, et puis j'adore leur show, ils ont vraiment un show incroyable. Je vais pas avoir beaucoup le temps aujourd'hui d'aller voir d'autres trucs, mais j'essaierai de passer un peu demain, peut-être, si j'ai le time. Et sur comment on aborde un show en festival où effectivement j'espère quand même que ce soir il y aura un peu de notre public, mais évidemment ce sera super hétéroclite. Bah, comme n'importe quel show, je pense qu'on fait de la musique, tu vois, qui peut parler en fait assez facilement aux gens, donc c'est toujours un défi d'aller chercher des gens, mais c'est le défi d'être artiste, c'est sortir de sa zone de confort aussi, donc on fait une setlist qu'on trouve cool et qui rentre dans le temps qu'on nous donne, et on essaye de tout donner dans ce temps là donc voilà.
Bah merci beaucoup Théa.
Merci.
Donc ce soir tu joueras à la salle de la Cité à 21h55, et pour se quitter on va écouter Caval Caval.
Yay. Théa,
ça me dit un truc.
Genre tout Panama, notre rouge. J'ai pris des stats, ils prennent la mouche. Toi et moi, on cramera toute la ville. Toute la nuit, on s'en fout des ciels gris. Que des chats morts, des sorcières et des anges hardcore. On traîne au fond des caves et dans tes angles morts. Ceux qu'on veut voir écraser, mais qui dansent encore. Mal dans son corps, mais on danse encore. Mon cœur est mort, cassé dans le caniveau. Quand poulet d'or a des goûts à l'écrou. La nuit, on sort comme s'il n'y a plus rien à perdre. Mais non binaire, tout était fermé, on a enfoncé la porte arrière. C'est la trave et le ped ADT, on fait la paire. Des cassettes, des concerts, c'est cas, on sait le faire. On se taille, on fout la merde dans ta scène ou dans ton village. On cavale, on épète, on accélère dans les virages. T'as pas la vitesse, t'as loupé le train, n'oublie pas. Tout est remis, tu l'appelles, donnez pas l'heure, maintenant ils cry. Tout est remis, c'est des posers, ils me font pas peur, ils sont fans de moi. Avec ma zone, tabasse la scène comme si on l'aimait pas. J'ai compté les cadavres, les pédocompteurs, 0 CS1. Bâtard voulait me tuer, il est reparti en sale état.
cosplay clic. Il me faut un mec en parisien, il me faut un cosplay clit. Il me faut de la drogue dans le jean, il me faut des clubs genre vite. Il me faut une putain de bonne raison de pas te mettre un cut dans le bide. Je veux encore. Viens nous rattraper quand on est mort.
Caval, caval, on écoutait Théa et qui était interviewée par Romain de PFM. Elle était retrouvée eh bien, à la salle de la Cité à partir de 21h50. Comme on vous le disait, c'est ce soir. Sur notre plateau à Blindspot, viennent de nous rejoindre Robin et Enzeng. Robin, je vais te laisser mener cette interview.
Tout à fait, merci Vincent, ravi de recevoir Enzeng. Alors on s'est raté hier, mais nous voilà aujourd'hui parce que bon, t'es à Rennes pour quelques jours, on va pouvoir en parler.
C'est ça.
Mais déjà, bah, t'as joué hier avec Enzeng. Comment ça s'est passé ?
Eh bah, écoute, c'était un pur plaisir parce que c'est la deuxième fois qu'on défendait ce projet en live. Donc en formation basse, guitare, Charlotte Savary au chant et moi trompette, clavier programmation quoi. Donc on était sur quelque chose d'assez nouveau pour nous et on a eu beaucoup d'enthousiasme à le défendre dans un endroit vraiment sympa.
Justement, je voulais commencer un petit peu avec ce disque The Trip, donc cet album que tu album solo sorti au mois de mars de cette année, ouais. Il me semble. Je voulais te parler un petit peu de ce disque et notamment ton choix de collaboration avec Charlotte Savary. Comment ça s'est passé? Quelle était l'idée, ton idée derrière la tête?
Alors au départ c'était un album instru, j'avais pas du tout projeté de mettre de la voix. Il était dans une ambiance un peu cinématographique. Et puis il se trouve que Charlotte, je la connais depuis très longtemps, parce qu'à l'époque où je tournais avec le Peuple de l'Herbe, qui était mon premier gros projet, Wax Taylor faisait la première partie. On est restés super amis et ça m'est paru évident que ça soit sa voix là-dessus, parce que bah, on a plein d'affinités artistiques. Et puis bah, elle a vite trouvé des évidences mélodiques qui m'ont ravi. Tout ça pendant le Covid, ça date un peu. Mais voilà, une petite histoire sympathique en tout cas.
Ça faisait quelques années déjà que l'idée se tramait de bosser ensemble.
Ouais, on se tournait un petit peu autour. C'est ça.
Oui, c'est vrai qu'on a connu avec Fox Taylor effectivement toute ouais. cette scène à laquelle
tout à fait.
On vous relie. Est-ce qu'on peut parler d'un premier véritable album solo pour toi ?
Oui, parce qu'auparavant, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Ça fait un moment que j'avais envie, pas par ego, mais par besoin de, en tout cas, exprimer des choses. Cette influence de trip-hop, je l'avais depuis un bon moment. J'ai pas envie de faire que ça, évidemment, mais... c'était quelque chose qui était là depuis un bon moment, il fallait le sortir et c'était un peu relié à ce que je disais avant avec la musique du film, des choses assez illustratives. Donc c'est pas un album de trompettiste, moi je suis trompettiste de formation.
C'est vrai que ça ressort sur le disque, finalement la trompette est pas...
C'est pas de montrer forcément un truc solo de trompettiste, mais plus moi en tant que compositeur, producteur. Et je l'utilise quand j'en ai besoin, je la trouve aussi importante que d'autres éléments. Quoi.
Ouais, c'était un peu le bon moment finalement pour en arriver à ce premier disque. Justement, on parlait de trip-hop, on a déjà évoqué le sujet, t'as une carrière assez longue maintenant, assez riche, et on va y revenir juste après. Mais j'ai l'impression que le fil conducteur de cette carrière, c'est quand même cette esthétique, le trip-hop.
Oui, alors après, pas seulement, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses qui tournaient autour du jazz, la funk, dans mes premières années de musicien. Mais c'est vrai que ce beat-là, ce tempo, m'a toujours été proche en termes d'affection, parce qu'il y a de la place, il y a le temps de développer les choses. Et c'est vrai que c'est un petit peu le fil conducteur, mais je fais pas que ça.
Ouais, d'autant plus que t'as quand même un parcours assez académique. Une sorte de... J'ai vu un grand prix du Conservatoire National de Lyon. Premier prix,
non,
en tout cas.
Premier prix, oui. Bon, après ça, c'est des espèces de diplômes, de médailles, tout ça. Mais c'est surtout ce que j'ai appris sur ces années-là qui sont importantes. D'avoir travaillé sur tout ce qui était notion d'harmonie, puis travailler mon instrument de manière intense. Alors, c'était plus dans un cadre classique. Et après, c'est dans mes expériences plus jazz où j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres choses. J'écoutais d'autres musiques, il y avait l'arrivée de l'électro. et j'ai rencontré les membres du Peuple de l'Herbe, enfin futurs membres du Peuple de l'Herbe, et c'est cet espace là qui m'a donné envie de sortir de mon cadre très académique.
Ouais, donc c'est après en fait cette période vraiment conservatoire que tu vas t'ouvrir à ces musiques là j'imagine que tu découvres en fait quand ça sort.
Ouais, c'était l'arrivée de toutes les musiques anglaises, les labels comme Ninja Tune, Warp, tous ces trucs là où moi je mixais aussi, je commençais à mixer en tant que DJ, donc ça, c'est une manière pour moi de découvrir la musique et aussi d'être avec les gens autrement qu'avec son instrument. Donc ça a été un moment très très riche avec le hip-hop aussi, qui est aussi une grosse base. Et surtout de mélanger, je pense qu'on était dans les années fin 90, début 2000, et c'était ce début de mélange. Et la musique instrumentale en France marchait pas très bien, donc il fallait s'armer de patience pour trouver des distribs, des labels. Donc depuis, heureusement, les choses ont bien évolué.
Justement, j'évoquais un peu ta carrière tout à l'heure, donc on a parlé du Peuple de l'Herbe, tu rentres d'une tournée avec l'Entourloupe. Il n'y a pas que ça, parce que tu as aussi beaucoup de musique de film, hein. J'ai vu notamment pour Virgin Despentes. Tu bosses aussi, tu as enregistré énormément de groupes, j'ai vu Gorillaz, je vais forcément t'en parler un peu après. Spectacle de danse, etc. J'ai l'impression d'avoir une carrière quand même très riche, d'avoir exploré tout un tas de champs différents. Est-ce qu'il y a encore des nouvelles choses que tu aimerais essayer ?
Ouais, c'est le travail autour de ma voix, par exemple, que j'ai envie de creuser un peu depuis quelques temps. Donc je cherche, c'est le cas de le dire, ma voix. Avec le temps, elle devient de plus en plus grave et je la trouve plus intéressante qu'avant. Donc je vais voir un peu ce qui va se passer. Je suis revenu sur des choses plus acoustiques dernièrement. Tu parlais de musique de film, je viens de faire la musique d'un long métrage avec un réalisateur du Mans qui s'appelle Bertrand Guéry. Et j'ai fait beaucoup de choses sans programmation, sans électro, tout ça, c'est pas un rejet, simplement un retour sur des choses peut-être corporelles, si c'est une manière de le dire. Donc je pense que j'ai envie derrière d'aller sur des trucs comme ça, assez inspiré par la scène anglaise, nouvelle scène jazz qui mélange beaucoup beaucoup de choses, et je trouve qu'il se passe des trucs intéressants qui me donnent envie en tout cas d'aller au-delà du trip-hop, quoi.
Ouais, on l'évoquait, Gorillaz. Je t'avoue, je suis obligé de te dire que je suis extrêmement jaloux. Là, je suis obligé de te le dire. C'est comment de bosser avec Damon Albarn ?
C'est hyper enrichissant. Bon, ça n'a pas été très long, hein. C'est une nuit, une soirée, on va dire, d'enregistrement. Mais c'est quelqu'un qui est déjà hyper agréable. De par son statut, il aurait pu être assez distant. Parce que j'ai fait des sons studio, des fois, les gens n'ont aucun rapport humain. Donc j'ai eu une phase où j'ai eu un petit coup de pression quand même, faut le dire.
Tu m'étonnes.
J'ai eu un petit moment de surexcitation mélangée au stress, mais en tout cas c'était hyper agréable. Je pouvais faire quelques propositions, évidemment à la fin t'as un edit, il reste un certain nombre de secondes. Mais c'est surtout ce qui m'a plu, c'est sa manière de mener une session d'enregistrement. Où il sait où il veut aller, il écoute des propositions, mais à la fin, il statue. Parce que Gorillaz, c'est un collectif, mais enfin, ça reste quand même lui qui tient la barque. Et j'ai eu la chance d'écouter tout l'album derrière, en studio. Il m'a fait écouter on écoutait les Cures, il y avait un feat avec Robert Smith. J'avais du mal à y croire.
Incroyable, c'est dingue.
Mais c'était surtout enrichissant, musicalement parlant, pour moi, ce que j'avais à faire derrière, comment il tenait. Bah son idée de base sur un morceau, quoi. Y a des producteurs autour, mais voilà, c'est le gars, il fait sa DA, quoi. Et j'avoue que j'ai pris mon petit moment de chauffe.
c'est fou, quoi. Super en même temps. Alors, on parlait de ton concert hier, donc avec ton projet à toi, mais c'est le cas de le dire, t'as pas pris la route pour rien, puisque ce soir, on te retrouvera avec les Cocopelli.
Ouais.
Et tu me disais même en antenne, et tu viens de me le dire, que t'as encore un concert dimanche.
C'est samedi.
Samedi, pardon, ouais. Je suis complètement décalé.
Mais c'est normal, c'est rentrant.
Rien que parlons déjà de Cocopelli, comment ça s'est joué, comment ça s'est passé ?
Bah, je ne les connaissais pas, j'ai découvert, c'est une proposition de Bar en Trans de Philippe Breton, le programmateur, qui a eu le nez fin en me disant que ça serait chouette que tu restes sur les 3 jours et que tu sois un petit peu une sorte de fil rouge, entre guillemets, quoi, et d'ouvrir en fait mes rencontres à d'autres musiques qui me plaisent, comme tout ce qui est un peu indie. Et du coup, il m'a fait écouter. Et elles m'ont proposé de, de, de faire quelque chose sur un morceau qui me plaît beaucoup. On vient de répéter juste là.
Ah, c'est la première répète. Ouais. C'est top.
Bah écoute, ça s'est bien passé, ça.
Ouais, vous êtes serein du coup.
Bah on verra tout à l'heure, tu vois. Mais elles sont super charmantes. C'est elles ont un côté musical qui est vraiment touchant, je trouve. Elles ont des voix vraiment formidables et c'est une proposition, je pense, qu'il faut suivre dans les même si elles sont là depuis quelques temps, j'ai l'impression.
Mais, oui.
Mais c'est en tout cas un projet qu'il faut suivre, je crois.
On rappelle que c'est ce soir à la Parcheminerie, ça ?
C'est à la Parcheminerie, oui, c'est ça.
Et que donc demain, tu es avec
Dina, une chanteuse qui est, je pense, en solo sur scène, si je me plante pas. Et c'est pareil, je l'ai rencontré à distance, quoi, mais c'est avec le projet du festival, quoi. Donc, bah, j'ai envoyé quelques enregistrements il y a 3 jours, de propositions. Et non, c'est cool. Je trouve que c'est un bon choix.
C'est peut-être ton rapport au jazz aussi, et donc aux musiques improvisées d'une certaine manière, qui facilite aussi.
Bah, c'est vrai que c'est un bon moyen de s'ouvrir à toutes sortes de choses. D'ailleurs, même dans la pop, dans l'indie, tu retrouves des trucs de jazz maintenant qui sont. C'est plus la connotation la musique à papa.
Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu on en parlait. Hein, toute cette nouvelle scène assez passionnante, et voire même jusqu'à des gens comme André 3000 qui font un album de flûte.
Pourquoi pas ?
Et il est vachement bien, ce disque, mais oui, d'ailleurs.
Mais oui. ce qui est intéressant avec le jazz par rapport à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, tu travailles une manière de t'exprimer qui pour moi, est la liberté même dans la musique. Mmh. C'est que, alors on peut des fois reprocher que ça parle un peu trop musicalement dans le jazz. Mais je pense que justement, le temps a passé, que là, il y a ce mélange avec d'autres courants musicaux qui font qu'on arrive à des choses intéressantes. Mais ouais, j'ai écouté beaucoup de jazz, j'en écoute toujours beaucoup. J'essaie de maintenir le niveau.
On me fait signe que c'est bientôt la fin. C'est quoi la suite pour toi ?
Alors la suite, on espère faire d'autres concerts déjà. Je fais une prochaine création pour la danse dans l'année 2025 avec une compagnie qui est de Lyon, qui tourne actuellement, qui s'appelle Arcos. Donc là, ça joue en Bretagne d'ailleurs, en même temps que je suis là.
Décidément.
Décidément. Et là, c'est une autre création pour la danse, mais pour la petite enfance, sur tout ce qui est motricité, découverte du corps. Et c'est un projet passionnant avec une compagnie qui s'appelle Corps Éveillé.
Voilà. Ben, merci beaucoup Enzeng d'être passé.
Merci à vous
sur ce plateau. C'est un plaisir vraiment. Et je te propose qu'on écoute un morceau à toi, le morceau Stranger Night, justement.
Super, merci.
Thank you.
Benzeng Stranger Night à l'instant. On vient d'écouter cette interview menée par Robin. Et on va maintenant partir dans un lieu dans lequel nous ne sommes pas encore allés, au Amrock à Rennes, pour retrouver l'interview de Fauna Nova qui sera menée par Nicolas
au bar
et Flavie.
L'Amrock, que vous êtes sur où plusieurs concerts se produisent ce week-end dans le cadre des bars en transe. Le groupe Fauna Nova vient de nous rejoindre. Ils se produiront justement ce soir ici même. Bonjour Fauna Nova.
Bonjour.
Salut.
Donc vous êtes trois Rennais et vous avez créé le groupe Fauna Nova justement. Mais est-ce qu'avant ce groupe, vous avez chacun un parcours individuel ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Ouais, ça risque d'être long. On a tous un parcours dans la musique. En tout cas, moi, c'est Maxime. Et oui, pas mal de musique, déjà plusieurs groupes. Et autrement, je bosse dans le théâtre en compositeur.
Moi, c'est PA. J'ai un autre groupe actuel qui s'appelle Memoranda. Et sinon, je fais du son aussi. Donc, je bosse à fond dans la musique avec plein de gens.
Et moi, Nicolas, à la basse. Voilà, voilà.
Alors moi j'avais une question, c'était par rapport à votre nom Fauna Nova, donc où est-ce que ça vient et est-ce qu'il y a peut-être une symbolique derrière, une signification particulière ?
Pas vraiment, on cherchait un nom qui nous plaise, vraiment ça part juste de là. On a mis du temps à trouver et je pense qu'au bout d'un an et demi on s'est dit ouais ça c'est bien.
Très bien, très bien. Et pour revenir à votre musique, est-ce que vous pourriez nous décrire, peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, votre musique, à quoi on peut s'attendre ?
À quoi on peut s'attendre ? Déjà, il n'y a pas de batterie, c'est boîte à rythme, beaucoup de boîte à rythme et un gros mélange de post-punk, de cold wave. Ça tire aussi vers la noise à certains moments. Voilà.
Et est-ce que vous avez des influences peut-être particulières ?
Ouais. Moi, j'ai cité Suns. Tu citerais quoi toi ?
Moi j'ai un peu de Snap Tentacles.
Ça peut être des choses plus nice comme A Place to Bury Strangers par exemple.
Voilà.
Moi j'avais une question parce qu'en fait vous êtes trois, vous avez chacun du coup votre parcours individuel, etc. Comment on met en place en fait un univers à trois quand on est trois artistes et qu'on a du coup, j'imagine, chacun des idées assez différentes. Donc comment on fait pour se mettre d'accord tout simplement ?
Du coup pour Fauna Nova c'est assez clair, on a quand même commencé avec PA où on a commencé à chercher des sonorités tous les deux avant que Nico arrive. On s'est un peu mis d'accord sur une grande ligne directrice et après moi j'ai beaucoup composé à la maison et ensuite je soumets ça aux gars qui me font leur retour en mode ça c'est cool, ça c'est pas bien, on va bouger et ça nous permet d'avoir une première maquette et après on rebosse ça ensemble en répète. Voilà.
Ok. Ouais, c'est vraiment vous en parlez tous ensemble et c'est vraiment une sorte de petite réunion pour savoir.
Carrément.
Ok. Et justement sur vos idées, sur cette ligne directrice, vous parlez français, mais ouais. Vos musiques, c'est vrai que j'ai pu voir qu'elles étaient écrites et chantées en anglais, ouais. Et même sur votre dernier single en allemand, ouais. Mais on y reviendra juste après. Pourquoi ce choix en fait ?
Parce que je pense qu'on a tous, en tout cas dans le groupe, écouté surtout de la musique, musique qui chante en anglais. C'est quelque chose chanté en français, on en écoute très peu. Évidemment, il y a des groupes qu'on va écouter, mais c'est vraiment le rock, pas anglais d'ailleurs, même américain, mais un chant en anglais qui nous a énormément inspiré. Enfin, vous me dites si je me trompe, donc ils sont d'accord, ils font oui. Et du coup, ça nous viendrait pas à l'esprit de chanter en français parce qu'on place la voix comme un instrument plus que comme vraiment raconter quelque chose, même si ça raconte quelque chose, mais c'est un instrument. Et ça sonne mieux en anglais. Enfin, l'accordage pour nous, c'est l'anglais, c'est pas le français, quoi.
D'accord, ça vient vraiment de vos influences et de ce que vous écoutez depuis des années, quoi.
Oui, carrément.
Ok.
Et du côté de la scène, j'ai pu voir que vous jouiez pas mal dans des bars, notamment aussi dans des festivals. Je voulais prendre le format du bar parce que c'est ce soir vous allez jouer dans un bar. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de lieu pour jouer vos chansons ?
Qu'est-ce qui nous plaît ?
On galère à s'installer, ça c'est cool.
Oui, c'est toujours un peu plus compliqué techniquement, mais non, c'est pas ça qui nous plaît. Y a quelque chose d'assez assez brut dans le bar, assez rock'n'roll. Tu peux pas trop tricher. Je crois que ça nous plaît. Évidemment, la proximité avec le public. Puis en vrai, de toute façon, nous, on a fait que du bar, même dans les festivals mentionnés, c'était du bar. Et ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire autre chose, absolument pas. On cherche aussi à se développer sur d'autres scènes. Aujourd'hui, c'est la seule qui nous est accessible, et puis c'est très bien, ça nous va. Ça fait 20 ans qu'on fait de la zig tous, et des bars, on en a écumé et écumé. Et du coup, on sait qu'il faut... Nous, on est de cette école où on aime passer par là. On commence par le bar avant d'aller voir plus haut. Ça permet de te former. Et de toute façon, même si à un moment, on va voir plus haut, on voudra toujours y revenir. Parce que ça fait partie de la musique. Enfin, j'ai l'impression que pour nous, ça fait partie du parcours du musicien, en fait. C'est là que se crée vraiment la musique. C'est les premières scènes accessibles. Voilà.
Et justement, peut-être la relation avec le public que vous avez dans ce genre de concert, dans les bars, comment est-ce que vous pourriez la décrire ?
C'est pas une question piège. voilà, cette chose de proximité. Déjà, on est à leur niveau. Il y a rarement une scène. C'est dur de répondre à cette question. Parce que...
On a souvent tous trop chaud, en tout cas. Ça, c'est cool.
Voilà, beaucoup de chaleur, humide et moite.
C'est bien résumé.
Et donc on rappelle que vous avez sorti donc un premier EP il y a maintenant plus d'un an, mais également un single. On va revenir surtout sur ce dernier single qui est paru il y a maintenant un mois.
Une semaine.
C'était le 28 novembre. Ouais. J'ai cru qu'on était en janvier. Je me suis trompée. Donc ce nouveau single, j'aimerais savoir vos inspirations, parce que c'est vrai que c'est un single qui change un peu étant donné qu'il a été écrit en allemand. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en fait sur ce single là?
Carrément. Il a une sonorité un peu kraut, un peu donc voilà, qui est une influence du rock qui vient de l'Allemagne, le kraut rock. Et moi, c'est une langue, j'aime beaucoup la sonorité. Encore une fois, j'aime bien parler d'accordage pour les langues. La sonorité française, j'arriverai pas à chanter en français. En anglais, c'est beaucoup plus simple. Pourtant, je suis nul en anglais. Et en allemand aussi, il y a quelque chose qui me parle. Et pourtant, je ne parle pas allemand. Mais voilà, d'ailleurs, les paroles, c'est ça. Hein, ça veut dire que je ne parle pas allemand. C'est juste ça. Et cette idée de répétition. Et donc, j'ai oublié la question de base. C'était quoi déjà?
En fait, c'était justement... Pourquoi l'allemand? Pourquoi l'allemand et les inspirations qui vous ont fait justement faire ce single?
Pas mal de Neu aussi.
Ah, il y a du Neu et il y a aussi... j'ai oublié, mais enfin Stéphane Escher, tu vas me dire.
Gros Zone,
qui est le premier groupe de Stéphane, enfin l'un des groupes de Stéphane Escher avant qu'il devienne Stéphane Escher, qui est un excellent groupe. Et on l'entend d'ailleurs là-dedans, dans le synthé, avec une petite note qui se répète tout le temps. Je sais pas, PA, si tu l'as composé en pensant à Gros Zone, mais on y ressent du Gros Zone.
Non, j'y ai pensé après, mais en vrai, c'est venu comme ça à l'arrache.
Et ben voilà.
Et justement, en parlant de ce single, vous avez réalisé votre premier clip, c'est bien ça?
Ouais.
Donc bravo. Ce clip réalisé donc par Xavier Guillaumin.
Exactement.
Dans ce clip que j'ai pu justement regarder, à un moment du clip, on vous voit prendre de la peinture sur la tête, c'est bien ça?
Ouais.
D'où vient cette idée assez farfelue, assez marrante?
C'est c'est que ça donne un effet visuel, on savait que ça marcherait visuellement. Il y avait aussi un peu le côté, je trouvais ça chouette de... c'est pas quelque chose d'agréable de se prendre de la peinture sur la tronche.
Donc
clairement.
C'est du vrai, hein, c'est pas des effets spéciaux.
Ah oui,
hein.
Non, c'est clairement du vrai. Et je trouvais ça bien de se mettre un peu au service du clip et ouais, d'accepter de se prendre cette peinture juste pour un clip, un peu de se soumettre à la musique, à notre musique, et voilà.
C'était votre idée ou l'idée de Xavier Guillaumin, justement?
C'était plutôt notre idée. On est allé le voir, ils ont voilà, on a une idée, elle est complètement farfelue, on ne sait pas trop comment on va la faire, ça a l'air d'être un peu de galère, on n'a pas des masses de thunes, est-ce que ça te dit? Il a fait, mais carrément, les gars. Et du coup, on salue Xavier qui jouait tout à l'heure avec Mina Rayeb, et apparemment, ils ont fait un super concert, donc voilà, bisous Xavier.
Et donc, ce single, il fera partie de votre premier album intitulé First Botch. Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelques petits mots sur ce premier album?
Des petits mots, ça. Je pense que c'est autant l'EP, on était. C'était une première. un premier travail où on était content, mais on c'était pas encore complètement là où on voulait que ça aille. Et je crois qu'avec l'album, on y est beaucoup, beaucoup plus. On commence à vraiment avoir les premiers, les premières pierres, on va dire, de ce qu'on veut que soit Fonanova. Vous êtes d'accord?
Et cet album, je me demandais, est-ce qu'il sera aussi en allemand, comme le single?
Non, c'est le seul morceau. parce que vu que je ne parle pas allemand, c'est compliqué de chanter allemand. Mais j'aimerais bien, j'aimerais vraiment bien. Mais on recherche d'autres langues pour chanter la même chose. Je ne chante pas portugais, peut-être qu'on le fera un jour, je ne sais pas.
Pourquoi pas explorer toutes les langues du monde?
Ouais, mais non, mais en vrai, c'est non, ce serait si on devait faire. Enfin, on ne ferait pas d'autres langues, je pense pas. L'anglais nous parle, l'allemand aussi nous parle. Et, par contre, je crois pas qu'il y ait 15 000 autres langues qui nous aient influencées sur les musiques qu'on a écoutées.
Et pour revenir au titre de l'album, donc First Botch, est-ce qu'on pourrait avoir une petite explication sur ce que ça signifie?
Ah, mystère.
c'est la surprise.
Voilà, exactement. Très on n'a pas encore trop travaillé cette partie-là, donc la justification, ce sera pour plus tard.
Et est-ce qu'on a peut-être une date de la sortie potentielle
de
cet album?
Oui, alors de la sortie, on n'a pas de date précise encore, parce qu'on fait tout en autoprod, donc il faut un peu trouver les financements, c'est surtout nous qui les amenons. Du coup, je passe quand même ça. On est toujours à la recherche de labels, même si on commence à être un petit peu accompagné, mais voilà, c'est très bien de le dire. Et on prévoit une sortie numérique et cassette audio avec Ideal Crash pour mars. On n'a pas une date précise et on aimerait bien pour fin de l'année scolaire, enfin courant juin, la sortie vinyle. Voilà.
Eh bien, très bien, on prendra note de tout ça. On le rappelle, vous jouez ce vendredi 6 décembre de 21h30 à 22h10 à l'Amrock, donc à côté des Horizons. C'est au prix de 8€ en pré-vente et 4€ pour ceux qui ont le tarif sortir. Pour se donner un avant-goût peut-être de ce que l'on va retrouver ce soir, je vous propose d'écouter le titre « Polite Boy », donc sorti en septembre 2023. We'll be right back.
Polite Boy à l'instant, c'était Fauna Nova, retrouvée ce soir du côté des bars en transe d'où nous sommes en direct. Je vous le rappelle, là nous sommes en ce moment même depuis le disquaire Blind Spot. C'est une fin de journée, j'ai l'impression, qui se profile ici à Blind Spot. En tout cas, d'ici quelques minutes, ce sera avec l'artiste nantaise Tedak que vous pourrez retrouver. Ludo depuis le Tiana, on est toujours en direct jusqu'à 19h. Ça va toujours Canal B, vous m'entendez?
Mais oui, on ça vous va, entend. Gros. Mais écoute, ça va, on rappelle bien entendu que nous sommes la Ferra Rock. Hein, et donc
oui,
voilà.
Oui, c'est vrai.
Ça va vous aussi de votre côté, tout va bien?
Bon ouais, super. On vous attend à 19h pour l'apéro.
Bon, on ne sera pas vraiment pas à 19h, 19h02 pour être précis.
19h02, d'accord.
Si c'est possible.
Ouais, et d'ailleurs, juste dernière connerie à dire aussi, on fait une grosse dédicace au bar le Balzac où nous avons fini notre soirée hier ensemble, Romain, c'était super.
Oui, gros, très bon, meilleur très bar. Ouais, ouais, très
meilleur
beau bar.
Meilleur PMU de Rennes.
Ouais, carrément, on les salue, on leur fait des gros bisous s'ils nous écoutent pas. On passe.
Ouais, on va retrouver Ludo tout de suite en direct du Tiana. Ça va Ludo, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends. Je vous entends quasiment. Quasiment depuis Tiana, qui a déjà son ambiance qui s'échauffe hein, à la venue de la soirée qui nous attend avec Lazer Arafat, Molto Morbidi et bien entendu Tedak qui est avec nous. Salut.
Bonsoir.
Bienvenue sur les radios Ferra Rock pour nous parler de ce que tu fais dans la vie, tout simplement. On va parler un peu de la vie, de ce projet musical que tu mènes, qui mêle techno, mais la tech, la vraie tech, bien rugueuse, bien des squats un peu. Il y a ce côté-là. Oui. Est-ce que c'est la musique, une ambiance qui fleure bon le squat?
Moi, j'aime bien cette description. Ça me plaît, je dirais. C'est pour moi, j'écris toujours techno avec un K,
ouais.
Parce que dans l'histoire de la techno, bah, y a eu des scissions, il s'est passé beaucoup de choses. Mais en tout cas, techno avec un K, pour moi, c'est la techno qui est militante. Et moi, mon projet est militant, donc.
Ouais, tu viens de la scène militante nantaise.
Ouais, c'est ça, queer féministe nantaise.
Et tu rappes aussi par-dessus?
Ouais, alors après, ça, tu vois, ça dépend des écoles, mais ouais. Moi, je pense que ça peut un peu se rapprocher du rap, même si, bah, en termes de musicalement, en fait, on est quand même très loin du style habituellement ouais. Utilisé pour le rap. Mais après, la manière dont sont dits les textes peuvent se rapprocher du rap, ouais.
En tout cas, tout ce côté alternatif qui peut être lié aussi au punk... en fait, t'as recentré un peu tout ça, justement, tout ce côté alternatif, engagé, militant.
Et oui, oui, complètement. En fait, déjà à la base quand même de tout ça, au centre, il y a tous les textes qui sont, du coup, assez engagés, assez politiques. Voilà, plutôt dans les luttes queer, féministes. Mais après, il y a des textes qui sont aussi plus larges, des questions existentialistes et de la vie en fait qui peuvent concerner absolument tout le monde et toutes ces choses là sont abordées d'un point de vue militant revendicatif et donc en fait les styles de musique qui semblaient être les plus portants pour délivrer ce message là c'était effectivement la techno, le côté punk avec la rage que ça porte et puis après forcément historiquement ça se rapproche, enfin il y a tout le rap et le hip-hop en fait qui sont un peu liés aussi parce que c'est des styles de musique alternatifs et militants quoi à la base.
Et t'as un postulat aussi de base qui est un peu nous ne sommes que poussière.
Alors oui, moi si je commence à vous parler du sens de la vie, on est terminé, hein, on va tous partir sur un long fleuve, mais non oui, en tout cas il y a une grosse remise en question de toutes les bases, de toutes les normes, en fait, tout ce qui me traverse, je me sens libre d'en parler avec d'autres lumières sous un autre angle que celui qu'on trouve généralement dans la chanson, en fait.
Mais avec aussi ce côté, on n'est que poussière, autant faire la fête, autant arrêter de nous faire chier sur plein de trucs, quoi.
Ouais, le côté de nos futurs punk, vraiment, c'est un peu ça. Et en même temps, ça veut pas dire qu'on abandonne nos luttes. Quand on dit nos futurs, ça veut dire en fait on a peu d'espérance, mais on a quand même de quoi se battre aujourd'hui avec les outils et l'énergie qui nous porte.
Et t'as pris un prisme qui n'est pas forcément dans l'agressivité, au contraire, tu retournes un peu ça dans un mode ironique, satirique.
Oui, complètement. En fait, l'idée, c'était l'absurde a une grosse place et dans la manière d'aborder les textes et dans la manière de les dire sur scène aussi. Rajouter de l'humour, c'est important parce que bah, c'est ça, y a quand même des sujets qui concernent pas tout le monde. Et donc typiquement, bah, j'ai pas envie que les gens juste se prennent ça en pleine gueule et puis partent et soient fâchés. Le but, c'est quand même aussi d'apporter, de sensibiliser, d'ouvrir un peu les esprits, etc. En fonction des publics, parce que c'est vrai que quand je joue dans des milieux très militants, bah, beaucoup de gens sont sensibilisés à ces questions. Et puis après, quand t'arrives sur des scènes de musique actuelle, bah, c'est pas forcément ce qu'on entend habituellement. Donc là, l'idée, c'est d'aller délivrer le message d'une manière un peu plus légère, mais tout en gardant la gravité des choses, parce que c'est des messages qui ont une vraie portée lourde, on va dire.
Est-ce que quand t'es dans des... Est-ce que justement il y a ce passage entre bah, tu vois, ce qui va être ambiance squat, milieu alternatif, des ZAD, est-ce que du coup tu modèles un peu tes propos ou en tout cas ton approche quand tu vas sur des choses un peu plus institutionnalisées justement dans les scènes actuelles?
Bah non, l'idée c'est... enfin non, dans le sens où en fait... je vais quand même, y a un truc d'intégrité à conserver qui est très très important, de se dire en fait c'est pas parce que je vais jouer dans un endroit différent que mon message il sera différent, parce que au contraire les gens devant qui je vais jouer dans des scènes plus institutionnalisées, elles ont encore plus besoin de la radicalité et d'entendre ce propos-là, parce que les autres, c'est, on parle, on se sait quoi, il y a un truc, c'est quand je joue dans des bars, dans des lieux alternatif, il y a vraiment un truc de on se dit des messages qui nous font du bien entre nous pour nous donner de la force, pour nous donner de l'amour, etc. Quand je vais jouer sur des scènes institutionnelles, c'est plus tiens, j'apporte justement tout ce que j'ai gagné là-dedans, toute cette énergie, je l'apporte ici et voilà, je vous donne ce que vous pouvez recevoir. Mais toujours avec l'intégrité qui va avec, parce que sinon ça se tient plus. Et c'est vraiment important.
Et comment on fait pour y aller justement vers ces lieux-là qui pourraient être réticents pour certains?
Et bah, tu veux dire les milieux
Plus conventionnels, tu vois.
Et bah, moi après l'idée, enfin j'ai participé au tremplin des Inouïs en 2023, et parce que c'était vraiment genre, il y avait un article qui disait oh, on cherche des personnes queer pour participer aux Inouïs et tout. Ma mère me l'a envoyé en me disant vas-y tente, et j'étais là. Oh, allez, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Et en fait, ça a marché. Je me suis retrouvé à jouer là-bas. Et là, j'ai rencontré des partenaires professionnels, dont Pipo Productions et dont Solène qui nous accompagne aujourd'hui sur Bar en Trans. Et en fait, ça a permis d'avoir un environnement professionnel, mais qui est très conscient du message de base et de l'importance du militantisme dans le projet. Et qui ont dit bon, ok, ça nous tient à cœur aussi. Donc on va faire ce trajet ensemble pour accéder à ces scènes-là et ensemble et tout en sans te demander de changer ce que tu dis en fait à aucun moment.
Et à côté de ça, tu participes aussi à d'autres projets en groupe. Je pense particulièrement à Superbe.
Oui.
Avec le groupe Berthe.
Oui, groupe Berthe. Oui, c'est du théâtre de rue. Pareil pour moi, ça un peu ça se rejoint à des endroits où comme c'est dans la rue, c'est très souvent gratuit. Donc c'est accessible, c'est un spectacle qui parle de la confiance en soi, donc c'est à destination majoritairement des personnes sexisées, enfin personnes assignées meufs ou personnes minorité de genre, etc. Donc on reste encore dans les mêmes thématiques, dans le même combat, et voilà. Et donc mon ingé son, Marie et aussi l'ingé son de groupe Berthe, tout ça, y a du lien en fait entre tous ces projets là et puis faire du théâtre de rue, ça m'a apporté aussi la danse, le travail de la danse, le travail du théâtre, le travail du corps, qu'on retrouve aussi dans TEDAC, parce que je travaille avec la chorégraphe de groupe Berthe pour la scène avec TEDAC. Donc il y a un truc d'enrichissement commun, quoi.
Et sur TEDAC, tu restes en solo?
Oui, je reste en solo sur scène complètement.
Et du coup, ça t'a peut-être donné des idées justement pour une évolution de scénographie par la suite?
Ah oui, carrément. Là, on revient de 3 jours au VIP. On était en résidence dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement qui s'appelle TRAM en Loire-Atlantique et dont le VIP fait partie. Et on a eu 3 jours pour travailler la chorégraphie, la prise de l'espace scénique, le son aussi, parce que du coup on a un très bon système son pour travailler, etc. Et faire en sorte que en fait quand on arrive quelque part, on a un spectacle qui a autant de gueule sur une grosse scène que dans un bar. Et ce soir typiquement, on a travaillé toute la semaine au VIP. Ce soir on joue au Tiana.
Saint-Nazaire.
Au VIP à Saint-Nazaire.
Oui, j'ai vu que ça avait travaillé, mais je pense que c'est avec groupe Berthe aussi, au Carroi, à Sancerre.
Ça devait être groupe Berthe, ouais.
Et
Amène tout salon.
Ouais, dans le Sancerrois, du bon pinard dans ce coin-là, et une très bonne équipe, le Carrois, par ailleurs. Est-ce que justement, maintenant, tu te considères comme un artiste pluridisciplinaire, est-ce qu'il y a d'autres formes d'art que tu exploites?
Ouais, moi j'aime bien l'appellation transdisciplinaire, juste parce que c'est débile, mais c'est un jeu de mots. Enfin, il y a trans dedans, ça me fait marrer, je suis une personne trans. Voilà, c'est un petit jeu qu'on fait dans la communauté, de repérer les mots. D'ailleurs, ce soir, on joue à Bar en Trans, ça me fait beaucoup rire. J'ai pas encore trouvé la blague que je vais dire sur scène par rapport à ça. Mais oui, transdisciplinaire, parce que, en fait, chaque discipline, donc la danse, le théâtre, l'écriture, la musique, viennent s'alimenter et se nourrir, et qu'en fait c'est extrêmement poreux et c'est extrêmement précieux d'avoir toutes ces cartes pour en fait proposer un spectacle qui n'est pas anodin, quoi, qui reste en tête, qui marque. Et plus tu marques les esprits, plus le message, pour moi, je pense qu'il accompagne, est retenu avec. Et donc en fait il y a un truc qui marche là-dedans, quoi.
Bah, je me demandais, tu vois, avec ta manière d'aborder toutes ces thématiques, avec ce côté satirique, absurde, est-ce que le stand-up aussi pourrait être tenté à l'image de Lou Trotignon, par exemple?
Je sais pas. En fait, j'ai un peu vite fait regarder Lou Trotignon et tout. Je trouvais ça vraiment cool, déjà d'avoir des représentations dans ce milieu-là. Après, moi, les seules fois où j'ai assisté à du stand-up, c'était des scènes exclusivement cis masculines hétéro, et en fait ça m'a vraiment dégoûté, parce que les mecs ils ont vraiment du mal à dépasser la blague, les blagues sexistes et validistes et tout ça. Et donc pour l'instant j'ai pas été convaincu des trucs du stand-up, même si bon voilà, quand je suis en scène en général j'improvise et je raconte des conneries, mais c'est pas, en tout cas c'est pas une direction, mais on est ouvert à tout, hein, pourquoi pas.
Tu vois, il y a peut-être justement une porte qui est en train de s'élargir, en tout cas à ce niveau-là, avec plus de représentativité aussi, dont autre Lou, hein, du coup, qui peut aussi porter dans ce mouvement-là.
Ouais, non, mais c'est cool, parce qu'en plus ça donne, non seulement ça donne de la visibilité, mais en plus ça donne vraiment un autre type d'humour, et puis de la dérision vis-à-vis aussi de nos discours, parce qu'en fait on est des communautés tellement persécutées qu'au bout d'un moment les gens ils sont très solides et très hermétiques à l'humour, et c'est normal parce que ça s'appelle de la protection. Mais du coup avoir aussi des gens qui font de l'humour sur ces thématiques là, pour moi c'est vraiment essentiel, et puis ça va permettre aussi d'ouvrir et potentiellement d'avoir plus d'alliés, etc. Après sans commencer à trop...
Bon, en tout cas, je trouvais qu'il y avait un bon parallèle avec Lou Trotignon, puisque il y a aussi cette manière de présenter les choses, ce côté absurde de certaines choses, mais aussi de reprendre des discours et de les resituer de BFM TV, de CNews, de C8, je sais pas, de toutes ces chaînes un peu qui détruisent de l'extrême droite. Ouais. Toi, il y a aussi cette approche-là qui est utilisée par Lou Trotignon. Toi, tu utilises aussi en samplant justement des extraits qu'on pourrait retrouver dans le zapping, dans Vue, par exemple, qui alimentent tes propos.
Ouais, complètement. Déjà, la technique du collage, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans la pratique artistique punk. Et puis aussi le sampling, dans les cultures hip-hop, on y retrouve toujours, hein, dans ces... Et puis en fait, montrer le réel, et encore une fois, montrer l'absurdité, et puis répondre. C'est aussi un moyen de répondre. Voilà ce qui se dit, voilà ce que je réponds. Il y a un truc très très clair là-dedans.
En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir, TEDAC.
Oui,
à retrouver ce soir au Tiana. Je trouve dans la continuité aussi de Nathalie Freulich qu'on recevait l'année dernière, dans l'héritage aussi de Rebecca Warrior, de Sexy Sushi. En tout cas, véritable plaisir de te découvrir. Et puis, on va écouter un de tes titres, L'Enfant Fou.
Allez, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Shut up.
personne ne voit mes dessins. 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 Les gens ne regardent que mes seins. Ça fait 10 ans que je me fais chier à vous montrer des cheveux bien faits. Vous faites semblant d'aimer ça, mais vous ne les voyez même pas. Belle preuve d'amour quand on ignore. De rester sourd n'est plus un tort. Terminé les douceur, jolie cantine, berceuse 4 heures. Après la siège, je me casse d'ici. Rose pas le Barbie, ouais c'est fini. Moi tout ce que je veux, un sound system. Pas compris, putain de Père Noël. Être un enfant c'est pire que chiant. Personne comprend ce qu'il y a là-dedans. Laissez-moi danser, 24 ans c'est pas assez. Ou bien cracher dans l'œil du directeur à la récré 10 heures. Insulter tous les garçons, ces fils de flics et ces gros cons. Si je suis barge c'est bien pour nous. Pour me souvenir que je ne suis pas vous. Si je suis barge, c'est bien pour nous, pour me souvenir que je ne suis pas vous. Si je suis barge, c'est bien pour nous, pour me souvenir que je ne suis pas vous. Si je suis barge, c'est bien pour nous, pour me souvenir que je ne suis pas vous. Si je suis barge, c'est bien pour nous, pour me souvenir que je ne suis pas vous. Si je suis barge, c'est bien pour nous, pour me souvenir que je ne suis pas vous. Si je suis barge, c'est bien pour nous, pour me souvenir que je ne suis pas vous.
Non.
TEDAC, à l'instant, c'était le morceau L'Enfant Fou, la version live que vous venez d'écouter sur toutes les radios Ferrarock. On vous le rappelle, on est en direct du festival Bar en Transe jusqu'à 19h. On vous fait vivre ce superbe festival. D'ici quelques minutes, ce sera les Lyonnaises de Hit Girls qui seront en direct des studios de Canal B. En attendant, nous, on vous fait... Elles sont arrivées, on me dit dans l'oreillette qu'elles sont arrivées à Canal B. Donc je vous laisse l'antenne à vous, les studios de Canal B.
Et oui, elles sont avec moi, ils sont avec moi pour notre dernière interview de ce deuxième jour de plateau mutualisé Ferrarock. On revient dans le studio Canal B et on va donc pouvoir accueillir ce groupe qui incarne à la fois de la musique, mais surtout une rencontre essentielle entre indépendance et la scène émergente et l'énergie brute. Ils joueront ce soir sur la scène du Penny Lane Pub à 23h et c'est aussi un partenariat Ferrarock cette semaine. Un grand merci à vous trois d'être avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci.
On plonge tout de suite dans votre dernier projet, c'est Area Silencio. C'est aussi ce premier album qui prend une place particulière dans votre parcours. Quand on plonge dans Area Silencio, c'est un peu comme s'aventurer dans un monde parallèle. Dès la première écoute, l'album frappe par sa dimension intime et troublante. Est-ce qu'on peut dire que ce disque est une sorte de portrait de l'âme collective du groupe ? Comment est né cet univers sonore si particulier ?
Qui c'est qui veut commencer?
C'est jamais facile de se lancer.
Le début de l'histoire.
Ouais.
Ça a commencé pendant le confinement, donc on peut dire que, en toute intimité, je pense, avec Amélie, il y a 3-4 ans maintenant. Et Max nous a rejoints en même temps que des influences communes, beaucoup de concerts et l'envie de faire de la musique ensemble.
Donc le début, l'origine, c'est vraiment le confinement. Mmh. Vous connaissiez avant?
On est amis depuis bien 10 ans maintenant,
avec Amélie
et Lisa. Ouais. Oui.
Donc c'est-à-dire, c'est le confinement, il n'y a rien à faire, vous êtes amis depuis longtemps et vous vous dites, et si on se lançait, et si c'était le moment ?
Bon, on faisait déjà un petit peu de musique, on avait quelques matos à la maison, mais voilà, on s'est dit, allez, on a le temps devant nous, on va essayer d'explorer des chemins qu'on n'avait pas encore explorés laisser ouvert ce qui pouvait se passer. Puis aussi, il y avait un petit label qui s'appelle Un EP par jour, Du coup, qui sortait un EP par jour pendant le confinement, et ça nous a motivés à sortir quelque chose de concret. Voilà.
Vous parlez de paysages introspectifs, mais je trouve que l'album est tout sauf doux. Quand on écoute par exemple Akin, cette disco indus infernale et unisson qui nous plonge dans un peu une noyade hallucinée, et je trouve une intensité aussi qui nous prend aux tripes. Est-ce que vous diriez que cet album est une catharsis pour le groupe ? C'est une manière pour vous d'explorer des zones plus sombres de votre musique, mais aussi de vos personnalités ? Ou c'est juste une impression ?
Non, je pense que ça se tient. Oui, forcément, on fait la musique qu'on fait, ça nous permet aussi d'extérioriser toutes sortes de sentiments, qu'ils soient négatifs ou pas. Mais il y a pas mal de ça, j'ai l'impression quand même. Et puis voilà, ça nous permet de décharger plein de choses.
Après, c'est peut-être la manière dont toi tu l'as ressenti, et du coup c'est ouvert aussi.
Ok, mais ça va, je suis pas trop loin sur mon ressenti.
Oui.
Dans cet album Area Silencio, il y a un titre que j'espère ne pas massacrer en le prononçant, et je me suis entraînée. Je trouve que dans ce titre, Paralos Pies Cansados, ça va, c'est pas trop mal. C'est un titre avec des morceaux au rythme organique. Et puis, il y a ce côté aussi hypnotique, presque un peu comme un rituel. Quand vous composez, est-ce que cette oscillation entre exploration sonore et immersion totale va guider vos choix musicaux ? Moi, je trouve qu'il y a vraiment un jeu entre le vertige, la profondeur dans vos morceaux. C'est quelque chose dont vous êtes conscient, ou ça vient tout seul, en fait, quand vous créez ensemble ?
On expérimente beaucoup, donc peut-être qu'on prend des chemins un peu divers parfois, et puis on essaie de réunir tout ça, donc oui, puis on prend du temps, donc peut-être que ça se ressent dans le fait d'aller en profondeur dans les choses et de mêler nos instruments, nos idées, nos influences, tout ça.
Et puis on a beaucoup fait vivre les morceaux en live avant de les enregistrer aussi, peut-être que ça joue dans ces explorations-là. Quand il a fallu ensuite les mettre en boîte, ça, on les avait bien vécu, on avait bien recherché les chansons. Justement, pour cette mise en boîte, vous avez enregistré et mixé cet album vous-même. C'est une démarche assez rare de nos jours, je trouve. Est-ce que cette manière de travailler vous permet de préserver une certaine pureté dans le son et de garder la main d'une manière sur votre projet?
Oui, carrément. Enfin, c'est sûr que du coup, on se permet plus de choses aussi du fait d'enregistrer et de mixer le projet nous-mêmes. Et des choses qu'on pourrait pas forcément se permettre si on devait avoir affaire à une tierce personne dans ce processus-là. Et aussi, par faute de moyens, on a fait ça. Mais je pense que ça nous a plutôt bien réussi, en vrai.
Oui, et puis pour un premier album, comme ça, on a pris le temps qu'on voulait. Mmh. Et on a quand même eu une deadline à un moment donné, mais quand même, on avait eu le temps d'exploration et de faire chez nous et de réécouter pendant 6 mois.
Tout le moment de la journée, de la nuit.
C'est ça, on s'en, du boulot.
On s'envoyait les trucs à écouter. Là, on change ça, on change ça.
La ouais, minutie, quoi.
Donc ça permet du timing différent que travailler à un moment, une personne donnée, tel jour donné, on doit enregistrer. Là, non. On faisait un peu comme on voulait. Donc c'était une liberté assez chouette. Ouais.
Parce que vous n'étiez pas confinés ensemble, donc il fallait s'envoyer par message des extraits, etc. C'était dur justement dans l'organisation?
Alors du coup, cet album, ce n'était pas pendant le confinement. En fait, on l'a enregistré il y a à peu près 1 an et demi, je dirais. Enfin, en tout cas, on a commencé à travailler dessus il y a 1 an et demi. Mais on ne vit pas ensemble. Enfin, on eut vivre ensemble à un moment. Et du coup, oui, même dans la compo, on fonctionne beaucoup comme ça, en tout cas par correspondance. On s'envoie, on échange, mais souvent à distance. Contrairement à la plupart des groupes, où normalement on se met dans une pièce et on crée. Nous, c'est plus de manière épistolaire, on va dire.
Et même quand on vivait ensemble, d'ailleurs, c'est comme ça, déjà. Par chambre interposée.
Sur des prochains projets, vous auriez envie à nouveau d'être seul, enfin à trois sur ce projet, ou d'avoir accès à une tierce personne?
Je pense qu'il faudrait trouver un juste équilibre entre les deux, parce que de faire ça tout seul, on s'est quand même rendu compte que c'était assez éprouvant et difficile, et que ça demandait beaucoup beaucoup d'énergie. Mais en même temps, le fait d'avoir encore une fois la main dessus, c'est vraiment ce qui nous a permis d'être ultra libre, en fait. Et je pense que oui, si on pourrait trouver un juste équilibre entre avoir un peu du matériel pro, quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux que nous dans ce qu'on fait, ce serait top. Mais en tout cas, oui, pour la suite, on partirait plus là-dessus.
Justement,
que vraiment refaire tout seul.
Ça me permet de faire un lien avec ma prochaine question, puisque cette semaine vous êtes partenaire Ferrarock, et ma prochaine question, c'était justement d'avoir un réseau de radios indépendantes qui soutient les artistes émergents et votre projet. Est-ce que ça permet d'ouvrir à d'autres publics et peut-être à d'autres partenaires, et donc trouver, comme tu le dis, quelqu'un qui s'y connaît un peu plus? Est-ce que ça permet ce genre de choses, ou d'autres choses même?
Forcément, rentrer dans la rencontre professionnelle et voir plein de personnes qui nous écoutent, forcément ça permet des rencontres. Après, on a aussi pas mal de rencontres en termes de musiciens, musiciennes qu'on voit sur la route, de personnes qui nous font des retours, qui veulent échanger avec nous. Mais oui, forcément, ça enrichit tout notre environnement professionnel, et ça permet d'ouvrir les horizons et de rencontrer. Ouais.
Et à une époque où les radios mainstream ne laissent plus beaucoup la place à l'indépendant, comment vous percevez justement des réseaux comme ça? Alors nous, on est sur la radio avec la Ferrarock, mais vous avez peut-être connaissance et des partenariats avec d'autres réseaux comme ça, un peu donc alternatifs. Comment vous percevez justement ce genre de réseau qui permettent de garder cette diversité musicale?
Maintenant, on est quand même très actifs à Lyon dans le tissu associatif musical. On organise quand même beaucoup de concerts, on est très présents là-dedans, et forcément ça nous porte entre groupes, entre artistes, entre scènes, entre lieux. Radio, moins, on côtoie quand même moins de radio, même, parce qu'on vient de Lyon d'ailleurs, on ne va pas préciser. Mais
c'est super important.
C'est super important.
Des radios indépendantes et alternatives face à ça. Ça paraît très inaccessible de passer sur des grandes radios, et puis même la portée est différente. Et là, ça permet d'appartenir aussi à
un milieu de personnes qui font des chouettes choses, des chouettes initiatives, et c'est super important. Ouais.
Et c'est des réseaux qui s'entremêlent, radio, musique, etc. Ça s'entremêle dans le milieu alternatif, même si Lyon, c'est un petit peu loin d'ici. ça reste quand même des réseaux qui communiquent ensemble. Alors, on va parler du live quand même, parce que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et puis, tu nous le disais, pour l'album, c'est quelque chose que vous avez beaucoup pratiqué en live avant d'enregistrer.
Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on préfère faire.
Ça tombe bien, c'est ce que vous allez faire ce soir. Vous êtes prêts pour ce soir à 23h?
Bah, écoute, oui.
Oui.
Ils sont faites et il n'y a plus qu'à jouer.
Est-ce que vous avez adapté particulièrement cette performance scénique pour donner une nouvelle vie au disque sur scène ce soir ou même depuis sa sortie?
Plutôt depuis sa sortie. En fait, il est sorti il y a un mois maintenant. Mmh. Et on a tourné pas mal ces deux dernières semaines avec... Alors, on ne peut pas dire ce nouveau live, si on peut... Enfin, ça fait un moment qu'on joue l'album sur scène quand même, mais on l'a un peu remanié, nouvelle progression.
Le fait qu'il soit sorti, ça nous a donné aussi plus d'horizons à explorer, de nouvelles idées en tout cas pour l'approcher en live, et même aussi de trucs qui nous lassaient à force de les jouer, donc ça évolue quoi, c'est toujours en mouvement en tout cas les morceaux, et on aime bien quand même changer et varier les plaisirs.
Et puis avec la sortie de l'album, vous avez peut-être remarqué quelques trucs qui fonctionnaient moins.
Oui, carrément.
Un petit mot sur ce soir pour nous donner envie d'aller vous voir.
Ça va être rock'n'roll. Non, je sais pas, venez si vous voulez passer un moment bizarre et puis...
Ah oui, c'est bien ça.
Et puis en espérant que ça vous plaise.
Eh ben, on se donne donc rendez-vous ce soir pour un moment bizarre, c'est à 23h au Penny Lane Pub. Merci beaucoup à It Girls. On va vous retrouver donc à Bar en Trance et puis ne manquez pas l'album sur les antennes des radios Ferrarock. C'est un partenariat qui se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. Et pour ceux qui veulent découvrir ce monde à la fois étrange et magnifique, ça tombe bien, c'est ce que j'avais noté, ça concorde avec ce que vous nous dites. On va avoir un avant-goût du concert de ce soir avec le titre, alors je suis vraiment désolée pour mon accent, Paralos Pies Cansados des It Girls sur vos radios Ferrarock.
Para los pies cansados, c'était les Hit Girls et leur interview juste avant par Lucie qui viennent clôturer ce magnifique plateau bar en transe deuxième jour. Je rappelle que nous on était en direct du Blind Spot pendant ces 3 heures de direct. Encore merci à eux au Blind Spot de nous avoir accueillis. Ils sont ouverts tout le week-end, hein. Vous pouvez y passer, venir acheter des disques, discuter, être conseillé, tout ce que vous voulez, bref, on ne peut que vous recommander de venir. On remercie bien évidemment aussi les artistes qui nous ont accompagnés durant ces 3 heures de direct. On a reçu Mixtros, Krenoka, Ila, Eya, Grand Eugène, Telepagai, Théa, Enzeng, Fauna Nova, Tedak et puis tout récemment les Hit Girls. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve demain pour la dernière journée de ce plateau Ferrarock. Est-ce que on peut déjà annoncer un petit peu le programme et les interviews qui vont arriver?
Évidemment, évidemment. Donc, on reste sur le même format, hein, 16h-19h sur les ondes des radios Ferrarock. Merci à elle d'ailleurs, hein, peu importe d'où vous nous écoutez en France. J'espère que vous prenez du plaisir. Demain, on aura avec nous plein d'artistes très chouettes. Sopical, Trotskinotique, pardon, avec un live en plus en direct de Canal B, Fonce Dalle, Bol, mais aussi Violet Indigo avec aussi un live, Édredon Sensible, et on finira la journée avec Fasm. Un beau programme.
Une petite surprise qu'on peut vous teaser, mais ouais, qu'on vous dévoilera point encore. Il va être l'heure pour nous de rendre l'antenne, hein, à nos chers radio collègues. Nous, on vous invite, hein, si vous êtes sur Rennes, à bien sûr aller voir des concerts, aller écouter des groupes qu'on vous a diffusés aujourd'hui, mais pas que. Hein. Donc, au bar en transe, dans les bars un peu partout de l'île, la programmation est disponible sur les internets. Et puis même un peu partout, je pense que vous pouvez la trouver. Faites la fête, mais faites-la bien. Nous, on se dit rendez-vous demain, bien évidemment. On va se quitter avec un petit morceau de musique, peut-être. Non, peut-être pas. Non, et on va reprendre l'antenne directement.
Générique.
Générique.